L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Le jeudi 17 février a eu lieu la deuxième édition du Gazette Africa à la Gazette Café. En voici un premier extrait.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, vous êtes là pour Gazette Africa 2. Parce qu'il y a eu une première Gazette Africa, c'était en octobre, et c'était pour le sommet Afrique-France. Et c'était sur le thème du féminisme. Alors Latifa est toujours là, merci à elle. Elle était intervenante et aujourd'hui, dans le public, on la remercie. Gazette Africa 2, on s'est intéressé à la singularité de la presse en Afrique de l'Ouest. Et tout cela, alors le 11, c'est Marie-Claude Siakezak et moi-même qui animons une émission de radio qui s'appelle L'Afrique dans tous ses états depuis plusieurs années maintenant, 2 ans, 3 ans. Et l'idée est aussi venue parce que Marie-Claude a rencontré Thibaut Bluy, qui intervient aussi aujourd'hui. Thibaut Bluy qui est journaliste et auteur de l'ouvrage « L'Observateur Toubabou », un ouvrage qui est en vente ici, un ouvrage dans lequel il s'intéresse à la presse au Burkina Faso et au début de son histoire jusqu'aux événements d'aujourd'hui. Alors, je laisse la parole.
Donc, bonjour à tous et merci d'être venus. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de la liberté de la presse, d'abord au Burkina Faso, à travers ma modeste expérience là-bas, et puis après, en essayant d'élargir un petit peu à la sous-région ouest africaine, pour voir un petit peu quels sont, essayer de rester dans le thème de la conférence, donc quelle est sa singularité, puis quelles sont les limites de sa liberté. Pour me présenter un petit peu, moi, j'ai suivi les cours à l'école de journalisme à Sciences Po, à Paris, et entre mes 2 années de master, je faisais un stage en Algérie. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec le thème qui nous rassemble aujourd'hui ? Eh bien, c'est qu'à un moment, on me demande un jour de faire un article sur les pourparlers de paix au Mali. Et là, donc, je fais une revue de presse des journaux ouest-africains qui parlent de ce sujet-là. Et je tombe sur un article très bien écrit de l'Observateur Palga, écrit par un certain Arnaud Ouédraogo, qu'on aura la chance, j'espère en tout cas de voir en vidéo tout à l'heure, peut-être d'interagir aussi avec lui. Mais donc, je lis cet article qui était très informé, etc., mais surtout très bien écrit. Et donc, je garde en tête ce titre de la presse burkinabé, de la presse ouest-africaine, dans un coin de ma tête. Et puis, l'année suivante passe, je finis ma 2e année de master. Et là, à ce moment-là, j'ai envie de partir à l'étranger, de commencer, trouver un premier poste à l'étranger. Et c'est un petit peu compliqué de commencer sa carrière au Maghreb. Et puis, j'avais envie de partir un petit peu plus loin. Donc, je regarde du côté des pays d'Afrique subsaharienne francophone. Donc, les pays, des destinations un petit peu plus naturelles dans les pays un peu plus développés, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Et puis, là, je tombe sur un reportage, par hasard, sur le Burkina, qui présente les enjeux de la transition après la chute de Blaise Compaoré en 2014. En octobre 2014. Du coup, revient en tête le titre de l'Observateur Palga. Et en me disant, c'est vrai que c'était un journal de qualité, etc. Et puis je me renseigne et beaucoup de gens me recommandent effectivement de prendre contact avec ce journal pour essayer d'aller y travailler. Et donc là, en fait, je commence à creuser. Et beaucoup me parlent donc de l'Observateur Palga, qui est le plus ancien journal de presse privée en Afrique francophone. Donc, qui a été créé en 1973. Alors, si on replonge un petit peu dans le contexte, 1973, c'est très, très peu de temps après les indépendances, qui sont en général pour l'Afrique subsaharienne en 1960. Et donc, il y a beaucoup de médias d'État et très peu, finalement, de presse privée, ou en tout cas de qualité. Et un certain Édouard Ouédraogo, donc, qui a une parenté lointaine avec Arnaud Ouédraogo, Ouédraogo étant un nom répandu au Burkina Faso, qui est un prof de français qui a créé ce journal en 1973. Donc, il a eu l'audace de le faire et ça lui a valu quelques problèmes parce qu'en 1984, son journal est incendié au moment de la révolution de Thomas Sankara, donc le capitaine qui avait pris le pouvoir en 83. Et l'année d'après, donc, cette affaire n'a jamais été élucidée, il n'y a jamais eu de procès, mais l'imprimerie de l'Observateur Palga, qui est au siège du journal, encore aujourd'hui, brûle. Et donc, le journal ne paraît plus de fait pendant quelques années. Il fait quelques quelques tentatives après la Révolution, donc après l'assassinat de Thomas Sankara et la prise de pouvoir par Blaise Compaoré, donc après 1987, et il n'est pas autorisé à reparaître à la seule condition qu'il change de nom. Donc c'est ce qu'il va faire, et en fait, le journal qui au départ s'appelait juste l'Observateur va s'appeler l'Observateur Palga. Palga, ça veut dire nouveau en mouré, la langue des Mossi, qui est l'ethnie majoritaire au Burkina. Et donc, c'est la condition pour que ce journal reparaisse. Et depuis 1991, donc, le journal existe toujours, donc, malgré les péripéties, malgré les multiples crises de la presse, etc. Mais ce journal a le mérite d'encore exister, encore aujourd'hui. La preuve, c'est la une de l'édition d'aujourd'hui, donc de l'Observateur Palga, après la prestation de serment hier du nouveau président au Burkina, donc le lieutenant-colonel Damiba, et avec la transition qui va avec. Donc le journal, en fait, pourquoi je voulais vous introduire mon propos avec cette histoire-là, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est le plus ancien journal de presse privée en Afrique de l'Ouest, et vraiment qui a lancé une tradition de journalisme d'enquête, plus particulièrement de grands reportages, etc., et vraiment de journalisme de qualité en Afrique de l'Ouest. Et du coup, c'est, on va le voir après, on ne le retrouve pas forcément dans d'autres pays. Et alors, il y a une qualité à la fois informationnelle, avec des journalistes très introduits, etc., et qui ont des très bonnes informations, qui suivent depuis plusieurs années, voire décennies, certains sujets. Et puis, il y a aussi une qualité rédactionnelle qui est très impressionnante. L'autre jour, on en avait parlé avec Marie-Claude et puis Guylaine dans le cadre d'un entretien sur FM+. Mais du coup, j'étais frappé, moi, par la qualité de l'écriture. Et c'est l'anecdote que je cite souvent. C'est que malgré le fait que j'ai fait une soi-disant grande école et que j'ai toujours eu l'habitude de lire, écrire, etc., le premier article que j'ai écrit là-bas, il est revenu barré de rouge de la correction. Parce qu'il y a encore des correcteurs. Arnaud, d'ailleurs, a commencé comme correcteur à l'Observateur Palga avant de devenir journaliste. Et du coup, je vais voir les correcteurs en leur disant « Mais je suis désolé, ça, je l'ai déjà lu, vu, écrit, entendu. Quelle est la faute ?» Et là, ils m'expliquent. Et en fait, ils avaient raison sur toute la ligne. Et là, je me suis dit « Je vais beaucoup apprendre dans le journal. » Effectivement, ça a été le cas. Donc, il y a vraiment aussi une plume dans ce journal et dans ces journaux aussi au Burkina. Alors après, bon, il ne faut pas non plus trop idéaliser comme on le connaît ici. Il y a une qualité qui a tendance aussi un petit peu à décliner et les jeunes écrivent de moins en moins, etc., et avec de plus en plus de fautes, mais quand même. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de l'Observateur Palga. Et du coup, alors là, je vous ai dressé un petit peu un portrait du journal pour lequel j'ai travaillé. Les événements n'ont pas tardé à s'emballer, parce que moi, je suis arrivé donc en juillet 2015, et en septembre, il y a eu un coup d'État. Après, ça a repoussé les élections qui se sont tenues en novembre et qui ont abouti à la première transition entre deux civils depuis l'indépendance. Donc, c'était la première fois. Sinon, il y a quand même une tradition de coup d'État, malheureusement, au Burkina. Et on l'a encore vu récemment. Et donc, après, il y a eu le premier attentat djihadiste, et qui a été le premier d'une longue série, malheureusement aussi, et qui dure toujours, avec aujourd'hui, depuis 2016, plus de 2000 morts, et puis 1,5 million de déplacés internes dans le pays, qui a complètement déstabilisé la nation sur un pays d'une population de 20 millions d'habitants à peu près. Donc en fait, c'est des événements, je me suis rendu compte en revenant en France, qui avaient été peu médiatisés ici, et alors que quand je racontais un petit peu moi comment j'avais couvert les événements, etc., j'arrivais à intéresser les gens, et en fait les gens posaient pas mal de questions, etc., et la discussion se terminait souvent en disant « tu devrais écrire un livre ». Donc au bout d'un moment, je me suis dit « pourquoi pas ?». Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je pensais que ça me prendrait que les 2 mois d'été, finalement ça m'a pris un peu plus de temps, un peu plus qu'un an. Donc ça a donné ce livre qui a été publié en 2020 et qui a obtenu après le Grand Prix du manuscrit francophone. Et je vous propose de vous lire un passage qui est tiré, donc c'est au tout début. C'est bien sûr en lien avec le thème d'aujourd'hui. Donc le passage s'appelle « Saveur trompeuse du gombo ». Et le gombo, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit condiment qui ressemble à un haricot. Et en fait, c'est aussi la métaphore du pot de vin dans le champ lexical fertile de la corruption burkinabé. Donc en fait, là, le passage, c'est ça se déroule quelques jours après mon arrivée et puis le premier contact avec le terrain, quoi, si on peut dire. Donc je vais vous lire ce passage. Les jours passent et puis vient la première confrontation avec le terrain. Tandis que j'accompagne l'un de mes collègues à un banal colloque, celui-ci m'attire discrètement à l'écart. dans sa paume une enveloppe. « Tiens, c'est pour ton carburant. »« Mon carburant. On est venu à pied. »« Non, faut prendre, » persiste-t-il en me tendant un billet de 5000 francs CFA, environ 8 euros. Sans m'en douter, je viens d'apercevoir mon premier gombo. Je décline et prends mes distances. Tête haute, main propre. Par la suite, je n'ai cédé qu'une fois au champ de l'aguichant condiment. Non pour épargner du naufrage le frêle esquif de mes finances personnelles, mais plutôt pour pousser jusqu'aux plus sombres abysses mon immersion dans la peau d'un gazetier burkinabé. Ce midi-là, des dizaines de confrères et moi revenions d'une éreintante excursion avec le gouvernement. Nous sommes sur le point d'être congédiés sur le perron d'un important ministère quand une voix s'élève pour solliciter un peu d'eau. « Ah, vous aussi. Bon allez, montez !» s'exclame la ministre avec un rictus forcé. Nous nous rejoignons diligemment au deuxième étage. Des sachets d'eau et quelques sucreries nous sont fournis. Donc sucreries, c'est des sodas en français burkinabé. Sentant notre véritable soif non étanchée, les fonctionnaires devinent le message. Ils dressent une table dans un coin afin de nous verser, à l'abri des regards indiscrets, de plus juteux pour boire. Jusqu'au dernier moment, j'hésite à me servir. Puis j'ai marre, j'ai sort. Poche pleine, tête basse. J'ai longuement disserté avec mes compagnons d'infortune sur les liaisons dangereuses qu'ils entretiennent presque tous avec ce genre de rétribution clandestine. La plupart sont lucides quant aux limites que le système implique, en matière d'objectivité comme dans la sélection des thématiques, et s'estiment moins journalistes que communicateurs. « Ah, c'est l'Afrique » soupire-t-il d'un air mi-fataliste, mi-complaisant. Pour ma part, j'ai pu me contenter de mon salaire local pour satisfaire les besoins de ma modeste personne, si blanche soit-elle. Je suis néanmoins conscient que pour des pères et mères de famille, ou tout simplement des néo-mariés aspirant à une certaine aisance, une centaine de milliers de francs CFA, environ 150 euros mensuels, ne peuvent évidemment pas convenir. Mais au fond, ces incestueuses pratiques sont-elles si singulières ? L'homme de médias français n'est-il pas, lui aussi, la victime plus ou moins consentante de tout un entrelac d'intérêts qui, s'il ne s'exprime pas à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes, sont bien davantage pernicieux parce qu'hypocritement tuent. Donc en fait, surtout la conclusion de ce passage, c'était pour mettre un petit peu en perspective, parce que quand je suis rentré, donc après un an après la diplomation, quand je discutais avec mes camarades qui avaient été diplômés en même temps que moi de l'école de journalisme, ils me disaient, quand je leur racontais cette pratique du pot de vin, ils me disaient « Ah mais vraiment, il n'y a pas de liberté de la presse, etc. » Ce à quoi je leur rétorquais, est-ce que vous savez que cette année-là, en 2016, le Burkina Faso était devant la France dans le classement Reporters sans frontières de liberté de la presse. Le Burkina Faso était 42e et la France 45e. Donc depuis, la tendance est un petit peu inversée. La France est repassée juste devant. Mais ça permet de relativiser. Et en fait, c'est aussi, ça permet de faire prendre conscience aussi qu'en France, les médias, pour différentes raisons, mais notamment la concentration économique dans les mains de... Enfin, il y a quand même 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse, des titres de presse en France. Du coup, ça pose aussi question sur les limites de la liberté de la presse. Et au Burkina, alors que ces pratiques sont plus visibles, effectivement. Donc l'usage veut que, quand on organise par exemple une conférence ou qu'on veut inviter des journalistes à avoir un relais médiatique, ben on leur verse un petit argent qui fait le complément de salaire. C'est tout à fait admis, mais qui pose effectivement des questions, comme je le décris dans le passage, en termes de sélection des sujets et puis d'objectivité après pour traiter le sujet. Donc voilà, on peut peut-être
au
passer
clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu.
Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure,
gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'était regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent, le sang appelle le sang.
Alors pour se rendre compte que le Burkina, donc je vous ai cité son relatif bon classement dans le classement de Reporters sans frontières, mais c'est un petit peu une exception quand même en Afrique de l'Ouest, parce qu'on voit que si on regarde le classement 2021, donc sur 181 pays, premier dans la zone ouest africaine, c'est le Ghana, ici, qui est à la 30e place, donc devant même la France. Hein. Et alors, le Ghana, c'est un petit peu différent parce que c'est un pays anglophone, donc avec une tradition un petit peu plus de liberté, que ce soit économique ou d'expression, un petit peu plus importante que dans les pays francophones. Mais après, bon, y a quelques nuances. En 2018, il y a un journaliste, notamment, qui a été assassiné pour avoir enquêté sur la corruption dans le football, qui mettait en cause notamment un député. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a un tiers des médias, à peu près, au Ghana, qui sont détenus par l'État directement ou par des proches du pouvoir. Donc c'est une limite. Après, bon, le Burkina Faso, on le retrouve en 37e position en 2021, toujours à peu près dans ces eaux-là, donc on vient d'en parler. Après, il y a le Sénégal, qui est 49e. Là, il y a les limites un peu de la liberté de la presse au Sénégal, même si elle est quand même relativement importante, c'est qu'il y a des sujets tabous que la presse n'ose pas trop aborder, les sujets religieux, tout ce qui est lié aux confréries, etc. Les sujets aussi liés à la corruption. Et puis, l'année dernière, il y a eu beaucoup de manifestations après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Donc là, il y a eu des médias, des sièges de médias qui ont été incendiés, il y a eu des chaînes de télévision qui ont été suspendues temporairement aussi. Donc là, il y a aussi des menaces toujours sur la liberté de la presse. Ensuite, on retrouve le Niger en 59e position. Donc là, pareil, des thèmes, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Arnaud si on a la chance de l'avoir, parce que son, le directeur de la cellule d'investigation dans laquelle il travaille est nigérien et a eu quelques soucis récemment. Mais les thèmes un petit peu difficiles sur lesquels enquêter, c'est plutôt le terrorisme et puis aussi les migrations au Niger. Donc quelques limites aussi. La Côte d'Ivoire, 66. Là aussi, une liberté qui est souvent mise à mal dans les contextes électoraux. On sait qu'il y a une presse très partisane aussi en Côte d'Ivoire. Par rapport au Burkina Faso, moi, quand j'étais allé en Côte d'Ivoire et en faisant une petite revue de presse le matin, on se rend compte très vite, ça c'est les journaux pro-Ouattara, ça c'est les journaux pro-Bagbo, ça c'est les journaux pro-Soro, etc., pro-Bédié. Et là, il y a quand même une limite avec une presse relativement partisane. Et l'année dernière, dans le cadre de l'élection présidentielle en octobre 2020, il y a eu quelques journalistes qui ont été insultés, menacés, etc., voire agressé. Donc ça reste aussi un petit peu instable. Le Togo, 74e, pareil, au moment de la réélection de Fornia Singbe en 2017, il y a eu certains journalistes qui ont été pris à partie et des coupures d'internet, etc. Et puis il y a aussi, comme au Sénégal, certains sujets tabous, donc les sujets de corruption, d'armée, tout ce qui touche au président et à sa famille, qui sont des sujets qui sont un petit peu dans l'angle mort de la presse, parce que sinon il y a des pressions qui sont exercées et qui sont importantes. Le Mali, 99e, donc là aussi, là un petit peu moins de liberté, un manque de moyens beaucoup dans la presse malienne, et un contexte sécuritaire et un contexte aussi politique qui est assez tendu. On en a eu encore l'exemple aujourd'hui dans l'actualité, avec le retrait de Barkhane en raison des tensions de Paris avec la junte qui a pris le pouvoir à Bamako, mais ça rejaillit aussi sur le travail des journalistes. donc qui ont du mal à exercer leur profession sous le régime militaire qu'on connaît actuellement. Et par exemple, il y a la semaine dernière encore, il y a un envoyé spécial de Jeune Afrique, Benjamin Roger, qui a été expulsé à peine 24 heures après son arrivée, même s'il avait un visa en règle. C'est parce que, soi-disant, que les règles ont changé maintenant pour les accréditations et que lui, mais on n'a pas précisé la nouvelle procédure, donc lui ne l'a pas pu la remplir, mais il a été expulsé. Donc on voit aussi une certaine limite et un contexte instable aussi au Mali. La Guinée, en 109e position. Donc là, il y a régulièrement des pressions qui sont exercées, des pressions assez fortes sur les journalistes qui sont emprisonnés, des journaux qui sont suspendus. Et puis beaucoup, une omerta aussi autour des manifestations qu'il y avait eu en opposition à la modification de la Constitution pour que Alpha Condé, le président qui a été renversé depuis, se présente à un troisième mandat. Donc là aussi, on voit que c'est très lié au contexte politique à chaque fois, les conditions d'exercice de la presse. Le Bénin, 114e. Et alors là, surtout, il y a un gros recul depuis la prise de pouvoir de Patrice Talon, donc en 2016. Et en 2016, le Bénin était encore 78e. Et là, on voit que 5 ans plus tard, il est passé à la 114e place. Donc un recul assez important. Et enfin, le Nigeria, qui est classé dernier d'Afrique de l'Ouest, où là, il y a beaucoup de... Même s'il y a des médias quand même assez foisonnants, en plus, le Nigeria étant le pays le plus peuplé d'Afrique aujourd'hui... Donc il y a une bonne centaine de médias, mais par contre il y a des sujets pareil sur lesquels il est très difficile d'écrire, les sujets, tout ce qui est lié à la sécurité, donc au terrorisme, et puis aussi aux violences intercommunautaires et à la corruption. Et puis Twitter par exemple a été suspendu en juin 2021 à la suite de la suppression par le réseau social d'un tweet du président Bouhari. Donc il y a aussi ce genre de pression, et ça arrive assez régulièrement. Donc, comme je vous le disais, la presse est aussi partisane. Et puis, surtout l'exemple paroxystique pour ça qui me vient en tête, c'est l'exemple ivoirien. Je l'ai déjà un petit peu mentionné. Après, il y a aussi une pression économique sur les médias qui fait que, avec le modèle, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, du gombo, des pots de vin, etc., les journalistes n'enquêtent pas beaucoup, parce que dans les enquêtes, il n'y a pas de pots de vin à part à déceler, mais sinon pas à recevoir. Donc souvent c'est un petit peu compliqué, mais Arnaud, si on a la chance de l'avoir tout à l'heure, ou en tout cas dans sa vidéo qu'il a enregistrée, en parle un petit peu, donc je lui laisserai la parole sur ce point. Alors on vient de voir les pressions politiques qui peuvent s'exercer, également les pressions économiques. Il y a un troisième grand facteur que souligne la plupart des organisations internationales dans leur rapport, c'est le fait que la liberté de la presse n'est pas vraiment sanctuarisée dans le marbre de la loi, et donc il y a une certaine précarité législative qui entoure le statut des journalistes, et donc c'est pour ça ce qui explique un peu les retours en arrière qui peut y avoir au gré des régimes politiques. Mais malgré cela, en fait, dans les années 90, un peu partout sur le continent africain, ont fleuri des conférences nationales pour essayer de renforcer la démocratie. Et à la suite de ça, beaucoup de dispositions ont été prises quand même pour garantir la liberté de la presse, notamment l'article 66 du traité révisé de la CEDEAO, donc la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a été adopté en 1993. Et qui prévoit de renforcer un petit peu la protection des sources, des journalistes, aussi l'accès des médias à un certain type de financement, etc. Et puis une plus grande ouverture vis-à-vis de la presse. Mais là, on a un petit peu un retour en arrière ces dernières années, donc avec la vague de coups d'État. Là, rien qu'en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, en un an et demi, il y a eu 6 coups d'État, donc au Tchad, au Mali, 2 au Mali, en Guinée, et puis au Burkina Faso aussi. Donc, la liberté de la presse tend à être un petit peu en recul, mais ce qui fait dire en fait à Reporters sans frontières dans son rapport l'année dernière, en conclusion un petit peu, que sous couvert de lutte contre la désinformation et les discours de haine, on assiste à une multiplication de nouvelles lois aux dispositions vagues et liberticides pouvant facilement servir à museler les journalistes. Donc là, c'est des lois notamment qui concernent la cybercriminalité, donc ou le cyberterrorisme, et en fait les journalistes sont beaucoup attaqués pour, en vertu de ces lois et parfois condamnés. Et ils ne sont pas jugés en vertu du droit de la presse, mais en vertu de ces lois-là et aussi les lois sur atteinte à la sécurité nationale, qui est quelque chose d'assez vaste et qui permet d'engager facilement des poursuites contre les journalistes. Donc, et puis aussi les atteintes à la personne du chef de l'État. Souvent, c'est des choses qui sont reprochées aux journalistes directement, et c'est des nouvelles lois, ça, qui sont prises par les différents régimes en Afrique de l'Ouest. Et donc, je vous parlais de cette vague de coups d'État. Le dernier en date qui a réussi, c'est celui au Burkina Faso, donc le 24 janvier 2022. Donc, on a vu tout à l'heure le lieutenant-colonel qui a pris le pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba. Et en fait, il a donc le coup d'État n'a pas donné lieu à une effusion de sang et a été quand même relativement bien accueilli par la population, qui, contrairement au coup d'État de 2015 que j'avais suivi de près et que je raconte dans le livre, là n'a pas donné lieu à une contestation populaire, au contraire plutôt un assentiment, et même beaucoup des partis politiques et puis de la société civile qui a un petit peu pris acte de cette prise de pouvoir par les militaires, parce que le contexte sécuritaire a changé aussi. Mais donc les militaires, en fait, ils ont d'abord suspendu la constitution, puis ils l'ont assez vite rétabli en fait en y adjoignant un acte fondamental, donc qu'ils ont appelé l'acte fondamental du MPSR. Le MPSR, c'est le Mouvement pour la Sauvegarde et la Restauration, qui est l'organe militaire, le nom de la junte, en fait, si on veut. Et ils ont pris un acte fondamental en plus de la Constitution. Et là, dans l'article 7, ils réaffirment que la liberté de la presse est reconnue et garantie et qu'elle elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Donc, il y a quand même des choses qui vont un petit peu dans le bon sens aussi. J'en discutais l'autre jour avec Arnaud, peut-être qu'il pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais aussi là, il y a tendance avec les derniers actes du régime précédent, donc qui avait été démocratiquement élu, de Roch-Marc Christian Caboret, le président qui a été donc déchu le 24 janvier dernier après 6 ans d'exercice du pouvoir. Il avait tendance depuis, surtout qu'on lui a confié son deuxième mandat en novembre 2020, à couper les réseaux sociaux beaucoup. Alors en justifiant le fait que c'est pour lutter contre les fausses informations et dans un contexte sécuritaire perturbé, mais du coup ça provoquait aussi la colère de la population. Et là, l'une des premières mesures de la junte, ça a été aussi de rétablir les connexions internet et de ne plus couper sans justification. Et donc là, certaines mauvaises langues disent que le régime militaire a fait plus pour les libertés individuelles et notamment la liberté de la presse et d'expression en 2 semaines que le pouvoir démocratiquement élu précédent en 6 ans d'exercice. Donc après, c'est à relativiser, mais c'est pour montrer aussi qu'il y a des nuances. Même si c'est un régime militaire, il y a des libertés qui sont toujours là. Alors, il y a une autre limite à la liberté de la presse aussi dans le contexte ouest-africain, mais ça qui est le corollaire un peu d'un phénomène global, c'est la multiplication, l'explosion des infox, donc comme on pourrait dire en bon français, des intox, des informations intox. Donc sinon, bon, c'est le vocable qu'on utilise plus, mais qui est anglophone, de fake news. Donc on a vu que c'est un phénomène qui a toujours existé, hein, les rumeurs, etc. Mais là, ça explose vraiment et c'est de plus en plus visible avec les réseaux sociaux. Et puis, avec Donald Trump qui n'hésitait pas à en abuser, etc. Et puis d'autres, hein, il n'a pas l'apanage. Mais on a vu aussi que les fausses informations avec la pandémie se répandaient beaucoup plus. C'est un terreau assez fertile. Notamment, il y a beaucoup de théories anti-vax aussi sur le continent africain. Et donc là, je vous ai mis une carte caricature de Damien Glaise, qui est un dessinateur franco-burkinabé, et qui d'ailleurs, c'est lui qui a dessiné la couverture de mon livre. Alors en fait, les fake news ont explosé aussi avec la pandémie, mais aussi les agressions et les arrestations arbitraires de journalistes, puisque Article 19, qui est une ONG qui recense aussi les atteintes à la liberté de la presse, a conclu dans un rapport récent là, que dans les premiers mois de la pandémie, elles avaient été 3 fois plus nombreuses, ces agressions et ces arrestations arbitraires, que l'année précédente. Donc c'était aussi le contexte de pandémie servait aussi au régime à justifier certaines atteintes à la liberté de la presse. Et ensuite, il y a l'influence, alors c'est très lié aux fake news, des propagandes chinoises et turques. C'est plutôt, c'est moins une présence militaire, directement politique, c'est plus une présence économique, donc un petit peu moins visible, et il y a un petit peu moins de fake news qui sont répandues. Mais par contre, là, au niveau de la Russie, il y a beaucoup de fake news qui sont répandues depuis des comptes qui sont basés en Russie ou alors qui utilisent des relais locaux, mais dont les commanditaires sont russes. Et notamment en octobre 2019, Facebook avait suspendu plusieurs dizaines de comptes parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils faisaient de la propagande pro-russe. Donc dans certains pays dans lesquels les Russes veulent avoir une influence, donc ils ont commencé d'abord par la Libye, le Soudan, et puis après beaucoup en Centrafrique aussi, et puis très récemment au Mali. Donc on le voit, il y a un jeu aussi entre les grandes puissances et qui passe aussi par le terrain de la propagande. Alors on cite souvent la propagande russe, on l'a vu par exemple au Burkina Faso, je ne sais pas si c'est un exemple qui va vous parler, mais en novembre dernier, il y a eu un convoi militaire qui devait acheminer du matériel de Côte d'Ivoire jusqu'au Mali, et en fait il a été stoppé à plusieurs reprises au Burkina Faso parce qu'il y avait des activistes qui bloquaient les convois, et en fait leur argument c'était de dire, et ils répandaient des messages dans ce sens pour dire, c'est des armes qui vont servir aux djihadistes. Et du coup, comme si l'armée française allait livrer les djihadistes. Et c'est pour ça que, sur la base de ces rumeurs qui étaient répandues, relayées sur les réseaux sociaux, ce convoi a été arrêté. Donc on voit qu'il y a vraiment des traductions dans la réalité. Et puis même au Mali, il y a un haut gradé de Barkhane qui a été accusé de trafic d'héroïne. Et en fait, on voyait des photomontages, etc. Il s'est avéré qu'en fait, c'était un Nigérian qui venait d'être arrêté. En fait, à chaque fois, ces fake news, elles prospèrent aussi sur un fond de vérité à chaque fois. Mais en la travestissant et en l'orientant d'une certaine façon pour aller dans son sens. Et là, notamment au Mali, là il y a il y a beaucoup de rumeurs, de vidéos qui disent que là, depuis début janvier, les soldats russes, donc sous-entendu les mercenaires de Wagner, seraient des milliers à s'être déployés et auraient liquidé déjà des centaines de djihadistes et auraient fait mieux que la France dans quelques semaines, auraient fait mieux que la France en 9 ans. Donc toutes ces informations sont évidemment fausses et bidons, mais circulent beaucoup, sont beaucoup relayées, et on voit que ça a des traductions dans la réalité aussi, parce que au Mali notamment, et au Burkina c'est le cas aussi, il y a beaucoup de manifestations pro-russes, anti-françaises, et on voit, on a vu après le coup d'État au Burkina il y a 3 semaines, que défilaient des gens qui brûlaient le drapeau français et qui au contraire brandissaient le drapeau russe. Donc on voit que ça a une vraie traduction dans la réalité, c'est cette propagande russe. Mais je vous ai mis aussi la propagande française, parce que, et ça c'est peut-être un petit peu moins connu, mais il y a aussi, donc là très récemment, en décembre 2020, Facebook a aussi suspendu des comptes qui sont gérés depuis la France, d'ailleurs pas très loin d'ici, depuis 7, de gens qui seraient liés à l'armée française, et en fait qui feraient un petit peu un contre-feu à la propagande russe sur les réseaux, et qui vanteraient les réussites militaires françaises, et aussi les partenariats qui sont noués par l'Agence française de développement, etc., et aussi qui taclerait un petit peu la présence russe et l'influence russe, etc. Donc il y a vraiment une guerre aussi de l'image et des messages sur les réseaux. Donc ça aussi, c'est l'une des limites à la liberté de la presse qu'on peut voir aussi aujourd'hui. Et ce qui a fait dire à un observateur, donc un universitaire, Boubacar Haïdara, qui a dit « Les fake news n'ont jamais été aussi nombreuses dans l'actualité politique au Mali que pendant cette transition. » Donc la transition qu'on connaît aujourd'hui et qui veut être prolongée encore de 5 ans, etc., et ne pas organiser les élections tout de suite. Voilà. Et le dernier élément que je voulais mentionner, c'est le contexte sécuritaire aussi. Et là, on le voit bien aujourd'hui, quand on parle de Barkhane, par exemple, on voit bien que les pays de la zone sont de plus en plus à être touchés. Il y en a peu qui sont épargnés. Même là, le risque terroriste vient jusque dans les pays côtiers. Et ce qui fait dire à Reporters sans frontières, dans son dernier rapport, là aussi, même encore plus récent, de janvier 2022, que l'insécurité atteint désormais un tel niveau qu'elle menace l'accès à une information fiable dans une région, dans une très grande partie de cette immense région, grande comme l'Europe. Donc là, on voit vraiment que le risque terroriste pèse beaucoup aussi sur la liberté d'informer. Et en fait, ça limite, ça décourage les journalistes d'aller enquêter directement sur le terrain, que ce soit les journalistes locaux, mais aussi les envoyés spéciaux internationaux. Et c'est, après, il y a une solution un petit peu intermédiaire. Si on veut aller dans ces zones, on est obligé d'y aller avec l'armée. Mais en fait, souvent, c'est ce qu'on appelle les journalistes embedded en anglais, parce qu'au départ, ça vient du journalisme plutôt anglo-saxon qui a cette tradition-là. Mais en fait, on voit, quand on est embarqué dans ce genre de mission, on voit bien que ce que veut nous montrer l'armée, en fait, ils nous présentent souvent les gens qu'ils veulent, etc. Et du coup, ça a quand même beaucoup de limites en termes d'information, et on est sujet au discours officiel et à son relais. Mais les exemples en date, donc il y a eu en 2013 deux journalistes de RFI, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été enlevés et puis assassinés à Gao, donc en 2013. Et plus récemment, deux journalistes espagnols en avril dernier qui ont été tués dans l'est du Burkina. Et ils enquêtaient, eux, ils étaient partis pour effectuer un reportage sur la lutte contre le braconnage, du coup, dans les zones de l'est du pays. Où aujourd'hui il y a beaucoup c'est un repère de beaucoup de groupes terroristes, alors que ce soit ceux affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Mais du coup, ils ont été assassinés. Et puis après, il y a toujours le reporter français Olivier Dubois, donc qui est toujours otage et qui est le seul otage français encore détenu dans le monde. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours de la mobilisation ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville, sur la façade de l'Hôtel de Ville à Montpellier. Il y a son portrait dans plusieurs villes de France aussi. Et donc lui a été enlevé en plein reportage à Gao. Donc en avril dernier, là encore, et depuis, il y a juste eu une vidéo dans laquelle on l'aperçoit vraiment furtivement, une vingtaine de secondes. Et depuis, on n'a plus de preuves de vie. Et sa famille s'est mobilisée, a fait circuler une pétition en fin d'année dernière qui a récolté plus de 50 000 signatures. Et ce qui a fait réagir Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse en début d'année, où il a dit qu'il était très mobilisé, etc., et qu'il faisait tout, l'État français faisait tout pour obtenir sa libération, mais dans le secret. Donc sa famille est un petit peu sceptique parce qu'eux-mêmes n'ont pas été tenus au courant. Mais voilà, donc c'est aussi le contexte sécuritaire qui est l'une des grandes limites aussi à la liberté de la presse en Afrique de l'Ouest.
C'était le premier extrait de la deuxième édition de Gazette Africa. Le morceau que vous venez d'entendre, Journaliste en danger, est d'Alpha Blondy.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.